Bonjour, nous sommes à New York en ce début d'année, à Manhattan plus précisément, pour l'ouverture du procès d'Harvey Weinstein. C'est une très grosse actualité aux États-Unis. Harvey Weinstein, vous savez, c'est ce producteur d'Hollywood accusé par plus de 80 femmes d'agression sexuelle. Et on se trouve devant la Cour suprême de New York. C'est là que s'ouvre le procès d'Harvey Weinstein. Il y a déjà beaucoup de journalistes, dont certains correspondants des radios francophone public. Anne, toi, t'es arrivée très tôt ce matin.
Salut. Ouais, moi, je suis arrivée super tôt ce matin à 5 heures. Il y avait déjà quelques personnes qui attendaient parce que je voulais absolument aller dans la salle. Il faisait nuit, il a fait froid. On a attendu jusqu'à 8 heures du matin avant de pouvoir rentrer. Et c'était quand même assez étonnant hein, de voir ce producteur, cette ancienne gloire absolue d'Hollywood arriver courbé en deux sur son déambulateur et s'asseoir comme ça devant son juge pour la première fois.
Weinstein, c'est le début de l'affaire MeToo. On a vu tout à l'heure l'avocate de deux des victimes présumées de l'ancien producteur qui nous disait que c'était un jour très important pour les femmes et pour le monde entier, parce que tout le monde va regarder ce qui se passe ici.
La libération de la parole des femmes a aussi donné lieu, je crois, à la capacité des femmes à se lancer, à s'exposer plus, à avoir moins peur finalement. Et c'est très notable en politique, où on a vu de très nombreuses femmes se porter candidates pour des mandats. On l'a vu au midterm, par exemple.
Je te laisse repartir, Anne, c'est une grosse journée à New York aujourd'hui.
Oui, là, quand on ne sait pas à quelle heure on va terminer, oui, c'est une grosse journée.
Et on se retrouve à Washington dans quelques jours pour la suite du podcast. Salut.
Ouais, salut.
Le mouvement MeToo, son impact sur la politique américaine, c'est de ça dont on va parler dans ce sixième épisode de Washington DC avec les correspondants des radios francophones publiques. De New York, on va se retrouver à Washington pour aborder ce sixième épisode MeToo, la politique au féminin. Bienvenue.
They want to destroy you, and they want to destroy our country.
Our politics has become so mean, so petty, so negative, so partisan, so angry, and so unproductive.
Washington, D.C.
We are free, we are beautiful. We are strong, and you will never take that from us.
Welcome to Republic Restoratives.
On a quitté l'agitation de Manhattan pour se retrouver au calme ici à Washington. On est installé aujourd'hui dans une distillerie, ça s'appelle Republic Restorative. C'est la première distillerie de Washington dirigée, possédée 100% par des femmes. C'est Rachel et Pia. Pour la petite histoire, Pia, l'une des patronnes de cet endroit, est une ancienne du Congrès. Elle a travaillé pour l'administration Obama. On est entouré ici de grandes cuves à whisky. Il y a un petit bar. Enfin, les gens travaillent derrière nous. On va donc parler de MeToo, des femmes en politique, de l'impact aussi hein, de ce mouvement à Washington. Aujourd'hui, pour en parler, il y a
Sonia Dridi, RTBF,
Grégory Phillips, France Info,
Anne Corpet, RFI,
et Raphaël Grand de la Radio-Télévision Suisse. Et on retrouvera Raphaël Bouvier-Auclair de Radio-Canada qui prend le soleil sur la côte ouest, en Californie. Sonia, on commence avec toi. Tu n'étais pas à New York, hein, au procès Weinstein, mais il faut que tu nous parles de Washington, la capitale fédérale américaine. La ville bouillonne de mouvements féministes et d'activistes.
Oui, et cette distillerie, en fait, est un très bon exemple du mouvement plus large qui se passe à Washington, puisque la capitale américaine fait partie des 10 villes dans le pays où il y a le plus de business, d'entreprises dirigées par des femmes. Donc, ça donne un côté un peu plus trendy à la mode à Washington. Ça casse son image de ville de fonctionnaires. Il y a aussi notamment l'espace de coworking The Wing, qui est un espace 100% féminin, qui accueille souvent des actrices, des femmes politiques aussi.
Michelle Obama y est allée, je crois, quasiment peu de temps après l'ouverture. Et puis Washington, c'est quand même une des rares villes, à ma connaissance en tout cas, où quand vous vous baladez en ville, vous avez un peu partout des portraits de Ruth Bader Ginsburg. Vous savez, Notorious R.B.G., cette juge de la Cour suprême, une icône du combat féministe. Il y a son portrait un peu partout dans le quartier Adams-Morgan, affiché par la municipalité. Et depuis quelques semaines, il y a même une fresque d'elle de plusieurs mètres de haut. C'est véritablement une idole dans cette ville démocrate qu'est Washington.
Ouais, elle figure d'ailleurs sur plein de gadgets, hein, des mugs,
des serviettes, des t-shirts, des chaussettes. Et j'étais frappée d'ailleurs en faisant mes courses de Noël de voir le nombre de boutiques qui avaient maintenant un rayon spécialement dédié au féminisme, avec donc Ruth, la fameuse, mais aussi avec Emma Gonzalez, hein, la jeune fille qui porte le mouvement contre les armes, et d'autres. Enfin, le féminisme, c'est revenu à la mode.
Et d'ailleurs, pour tout vous dire, nous, pour notre sapin de Noël, on avait des boules de Noël RBG qu'on trouve dans certains magasins de Washington. C'est vous dire si le féminisme imprègne ici véritablement la vie des habitants de cette ville.
Alors, les boules de Noël RBG, à Washington, il y a aussi le congrès qui a aussi changé de visage, hein, après le mouvement MeToo. Une dizaine d'élus ont démissionné ou ont décidé de ne pas se représenter dans le sillage du scandale. Parmi ces élus, il y a quand même des gens importants, hein.
Oui, alors parmi ces élus, il y a des républicains et des démocrates, il faut le dire. Tu l'as dit, une dizaine d'élus qui ont été concernés, accusés de harcèlement ou d'agression sexuelle. Et il y en a un en particulier, une affaire qui a fait beaucoup de bruit, c'est l'affaire Al Franken, sénateur démocrate du Minnesota. On le connaît, Al Franken, parce que dans les années 80, il était auteur et comédien dans la fameuse émission Saturday Night Live sur NBC.
Most of you probably know me, Al Franken. From the Al Franken decade reports I did last year.
Et donc ce Al Franken, après avoir été un comique à la télévision, est devenu sénateur au Congrès américain. Sauf que dans la foulée de MeToo, on a ressorti une photo de lui où il posait ses mains sur la poitrine d'une journaliste pendant un déplacement professionnel pendant qu'elle était endormie. Et évidemment, après MeToo, ce genre de photo ne passait absolument pas. Il a été contraint à la démission alors que c'était quand même un espoir assez important du Parti démocrate.
Ouais, et puis il y a eu une loi même qui a été passée pour changer les habitudes au Congrès, parce qu'il y avait une cagnotte destinée à régler les compensations obtenues par les victimes de diverses discriminations de tous ordres, hein. Et on s'est aperçu l'année dernière que c'est sur ces fonds fédéraux, donc payés, hein, par le contribuable, qu'on puisait pour dédommager les femmes victimes des comportements déplacés des élus.
C'est beaucoup d'argent qui avait été justement, payé par le contribuable américain ?
Alors, selon les chiffres publiés à l'époque, donc en décembre 2018, il y a eu 300 000 dollars payés entre 2003 et 2017 pour régler les sommes dues par des élus pour des comportements douteux. Et d'ailleurs, la loi qui a été votée en décembre 2018, outre qu'elle contraint maintenant les élus à payer eux-mêmes la facture, elle prévoit aussi que les accords de dédommagement prévus, signés par les victimes, soient rendus publics alors qu'ils étaient secrets auparavant.
L'impact de MeToo, le rôle des femmes en politique dans la campagne présidentielle, c'est tout ça dont on va parler aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, il y a quelqu'un qui semble totalement immunisé, hein, face au scandale, face aux accusations d'agression sexuelle.
I was accused by four or five women.
Cet homme, c'est le président lui-même, Donald Trump.
Who got paid a lot of money. To make up stories about me.
Oui, donc là, on entend Donald Trump qui est en pleine campagne et qui dit « J'ai été poursuivi par 4 ou 5 femmes qui ont été payées pour faire des accusations contre moi. Elles cherchent la gloire, l'argent. » Voilà, donc évidemment, Donald Trump qui minimise les accusations qui ont été portées contre lui.
Oui, parce qu'en réalité, il y a au moins 20 femmes qui ont publiquement accusé Donald Trump de comportements inappropriés, harcèlement, agression sexuelle, baiser volé. Les faire monter jusqu'à que la fin des années 70, hein, quand même, c'est pas un comportement nouveau de la part du président. Il dément, mais bon, il y a quand même cette fameuse cassette, hein, on l'a tous entendue, enregistrée en 2005, dans laquelle il se vante d'attraper les femmes par la chatte. Ça plaide pas en sa faveur. Il s'est aussi vanté d'ailleurs de se promener dans les vestiaires des concours de Miss alors qu'elles étaient toutes nues.
C'est vrai qu'en 2016, on pensait que ça allait le faire chuter, hein, et il a survécu.
Oui, et puis depuis la dernière élection, à chaque fois que je parle, moi, à des femmes pro-Trump, c'est souvent les mêmes arguments. Finalement, tout ça, c'est du passé. Et puis, tous les hommes se comportent un peu comme Trump. J'ai parlé récemment, d'ailleurs, à une républicaine qui fait partie de l'organisation Women for Trump. Donc, c'est une organisation qui fait activement campagne pour Trump dans le pays.
Well, I get that, but you know, almost every politician who's in Washington has been offensive to women at some point or another in their career. You know, I didn't elect him.
Oui, là, elle dit presque tous les hommes politiques à Washington ont offensé des femmes à un moment dans leur carrière. Je ne l'ai pas élu par rapport à ce qu'il a fait dans son passé. Je l'ai élu pour sa plateforme et jusqu'à présent, il a tenu ses promesses. Elle parle notamment de l'économie. Donc, on le voit, le mouvement MeToo a très peu impacté la base électorale de Trump.
Grégory, tu étais à New York, hein, à l'ouverture du procès d'Harvey Weinstein. C'est un procès ultra médiatisé, il aura un impact? Est-ce qu'il aura un rôle sur la campagne?
C'est la question que j'ai posée en tout cas à une avocate qui s'appelle Gloria Allred. Elle a 78 ans. C'est vraiment depuis 40 ans une avocate qui se bat pour le droit des femmes et notamment les femmes victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle.
Elle était sur tous les dossiers. Hein,
elle était sur tous les dossiers, Bill Cosby, etc. Il se trouve qu'elle a même défendu un temps une des accusatrices de Trump qui était une candidate de l'émission télé The Apprentice. Mais là, elle représente deux femmes, dont une accusatrice du producteur hollywoodien. Et donc j'ai demandé, est-ce que depuis MeToo, vous avez l'impression que les choses ont changé dans ce pays?
I think what's changed is women who have been victimized are the ones who have changed. They have become empowered. And empowerment is contagious.
Et Gloria Allred dit que ce qui a changé, c'est que les femmes qui auparavant pouvaient être des victimes ont pris du pouvoir et que ce pouvoir, cette force, cette puissance est devenue contagieuse.
Maybe now I will be believed.
Cette puissance des femmes, en fait, on la voit dans les élections, hein, les élections notamment de mi-mandat. En novembre 2018, il y a eu un nombre record de femmes qui ont pris d'assaut le Congrès.
Oui, elles se sont investies plus que jamais dans la campagne. Et puis, il n'y a jamais eu autant de candidates au Congrès et jamais eu autant d'élus au Congrès. Record historique, hein, un quart des sénateurs sont maintenant des femmes, un quart des représentants sont aussi des femmes.
Et la Chambre des représentants qui est présidée par une femme, Nancy Pelosi.
Oui, alors c'est surtout côté démocrate, hein, d'ailleurs, faut le souligner, parce que par exemple à la Chambre, 38% des élus démocrates sont des femmes, et c'est le cas seulement pour 8% des élus républicains. Mais, rappel historique, la première femme élue au Congrès, bah, c'était une républicaine, et c'était en 1916.
N'empêche, on a quand même l'impression que tout ce mouvement MeToo, c'est quand même un mouvement sur lequel surfent les démocrates. On voit pas vraiment les républicains, c'est vraiment les démocrates, notamment les candidats à la présidentielle dans la primaire démocrate.
Oui, et parmi les candidates démocrates, il y a notamment Elizabeth Warren qui a partagé sa propre expérience. C'était en 2017 sur la chaîne NBC et elle aurait sûrement pas raconté son histoire s'il n'y avait pas eu la vague MeToo.
C'est quoi son histoire?
Alors elle raconte comment lorsqu'elle était une jeune étudiante à l'université de Houston, il y a un professeur de droit très connu qui l'a poursuivie dans une salle de classe pour tenter de l'embrasser.
Ah mais c'est pas lui qui est mort et qui avait voulu qu'elle parle justement,
voilà,
à son enterrement?
Oui, tout à fait. En fait, 20 ans plus tard, après cet épisode, eh bien, ce fameux professeur a demandé à ce qu'Elizabeth Warren parle à ses funérailles. Et Warren raconte comment, lorsqu'elle a prononcé son eulogie, eh bien, avec un certain humour, elle a raconté cette histoire devant une audience bouche bée.
Pour autant, Elizabeth Warren, elle n'en fait pas forcément un argument de campagne. Elle ne se présente pas comme une survivante.
Non, mais par contre, pour les électrices démocrates, c'est une candidate qui est authentique et qui soutient réellement, sincèrement, ce mouvement MeToo.
Non, en fait, il y avait une candidate démocrate, c'est Kirsten Gillibrand, qui est, je crois, sénatrice de l'État de New York.
Et c'est ça.
Qui était un peu la candidate MeToo, qui était vraiment focalisée sur cette thématique-là. Depuis, elle a fait flop. Hein. Elle est sortie de la course, mais elle misait beaucoup sur cette thématique de la défense des femmes contre le harcèlement ou les agressions sexuelles.
Ouais, elle était à toutes les manifs féministes de l'automne dernier.
MeToo qui a un écho évidemment favorable au sein des candidats progressistes, des candidats démocrates. Une vague visible aussi dans les États démocrates. Alors on parlait de la sénatrice de New York, également des États comme la Californie, hein, sur la côte ouest. Je vous propose qu'on passe un coup de fil à Raphaël Bouvier-Auclair de Radio-Canada qui s'y trouve. Il est à San Jose actuellement.
Allô?
Salut Raphaël.
Salut.
Salut Raphaël.
Hello.
J'expliquais que tu es en Californie, côte ouest, San Jose, c'est ça?
Exactement, tout près de la baie de San Francisco, c'est pas mal.
Et puis ça tombe bien parce qu'il y a de l'actualité en Californie. Nous, on a Grégory, Anne, on était à New York, on couvrait le procès d'Harvey Weinstein. En fait, il y a un autre procès, hein, qui vient de débuter à Los Angeles, c'est ça?
Il y a des accusations et des démarches judiciaires qui ont été annoncées en même temps que ce procès à New York où vous étiez à commencer, c'est-à-dire que Harvey Weinstein fera face à des accusations de nature sexuelle à Los Angeles également de la part de deux plaignantes. On sait évidemment que la Californie, c'est l'autre univers d'Harvey Weinstein, là où il avait beaucoup de pouvoir en tant que producteur de cinéma. Donc, deux plaignantes ont fait part d'allégations d'agressions sexuelles. Ça se retrouvera devant les tribunaux. Il y a même une de ses plaignantes qui pourrait être appelée à témoigner à New York, donc les dossiers pourraient être reliés. Mais en tout cas, tout ça pour dire que même s'il réussit à s'en tirer à New York, eh bien, Harvey Weinstein n'est pas au bout de ses peines. À l'autre bout du pays, en Californie, il fera face à la justice également. Et on en parle donc ici, de l'autre côté des États-Unis aussi.
Et puis, Raphaël, la Californie qui est à la pointe hein, aussi sur les questions du droit des femmes, les femmes en politique aussi. Hein. Il y a énormément de politiciennes qui viennent de Californie, non?
Et il y a des politiciennes influentes et importantes. À qui pensez-vous quand on vous parle de la représentante de San Francisco à la Chambre des représentants?
Ah, bah, c'est
Nancy Pelosi!
Exactement.
C'est juste?
De longue date ici dans la région qui est à la tête des démocrates. C'est la première femme présidente de la Chambre des représentants. Il y a une bonne délégation de femmes qui représentent la Californie au Congrès. Par exemple, au Sénat, les deux sénatrices de la Californie sont des femmes, dont une qui a été candidate à l'investiture démocrate, Kamala Harris, qui a quitté la course. Et au-delà de cette représentation féminine, eh bien, il y a aussi des projets de loi qui se reflètent également. Par exemple, je suis ici cette année, mais j'étais venu à peu près à pareille date l'année dernière en Californie pour couvrir un autre projet de loi qui fait en sorte que depuis le début de l'année ici, les entreprises cotées en bourse doivent avoir au moins une femme au sein de leur conseil d'administration. Ça va aller en augmentant avec les années. Évidemment, ce ne sont pas des projets de loi qui s'adoptent sans contestation. Il y en a eu ici en Californie, mais ça fait réfléchir ailleurs au pays. Il y a des élus ailleurs dans d'autres États qui regardent ce qui se fait ici, notamment en matière de droits des femmes.
Raphaël, moi j'avais une question sur Kamala Harris dont tu parlais. Elle est sortie de la course à l'investiture démocrate, mais un temps on parlait d'elle comme d'une probable ou possible, en tout cas, future vice-présidente peut-être d'un Biden ou d'un autre. C'est encore un scénario que les Californiens envisagent?
Alors, ce serait en tout cas pour les Californiens quelque chose d'intéressant. Ils n'ont plus de candidats dans ceux qui sont le plus élevés dans la course, qui viennent d'ici, qui viennent de cet État qui est le plus populaire des États-Unis. Alors, ce serait en tout cas certainement une bonne chose pour les Californiens d'être représentés à ce niveau au sein de l'administration, surtout, comme on le disait tantôt, qu'ils ont déjà une femme qui est la présidente de la Chambre des représentants, une femme de San Francisco ici.
La Californie, un État très peuplé, qui a aussi un rôle important hein, dans la suite hein, de l'élection présidentielle lors du Super Tuesday aussi. C'est un État à surveiller de près. Raphaël, on va te laisser sur la côte ouest. Bonne journée.
État, je tiens à te préciser qu'il y a plus d'habitants que le Canada, la Suisse et la Belgique.
Ah, je suis pas sûr de la Suisse. Hein. Voilà la petite précision de notre Canadien en voyage sur la côte ouest. Bonne journée. Salut Raphaël.
Salut, merci.
Salut.
Juste pour rester encore quelques mots dans la campagne des primaires démocrates, hein, on évoquait Kamala Harris, on a parlé d'Elizabeth Warren. Enfin, il y a quand même quelqu'un dont il faut parler, c'est Joe Biden, non? Il y a eu des accusations qui ont visé Joe Biden également.
Oui, c'est de la part de Lucy Flores, hein, une ancienne élue du Parlement du Nevada. Elle a sorti un essai dans lequel elle raconte que Joe Biden l'a touchée de manière inappropriée et l'a embrassée sur la tête, je crois, pendant la campagne de 2014 quand il était vice-président. Et alors du coup, tout le monde s'est emparé du fait que oui, Joe Biden a des manières très tactiles et les républicains se sont rués là-dessus. Ils l'ont surnommé...
Sleepy Creepy Joe, enfin c'est Trump qui avait trouvé ce surnom. C'était au tout début de la campagne de Biden, on a pensé à un moment donné que ça pouvait quand même pas mal lui nuire et il est à peu près sorti de ce mini-scandale.
Il n'est pas quand même affaibli, Biden, à cause de ça?
Si, et puis en fait ça fait plusieurs années, moi quand je suis arrivée à Washington il y a quelques années, il y a des staffers, donc des employés du Congrès, qui m'ont parlé de cette histoire, enfin tout le monde savait que Biden avait souvent des comportements dits trop tactiles avec les femmes. Et s'il n'y avait pas eu encore cette vague MeToo, évidemment, ça n'aurait pas eu le même impact sur sa campagne.
En tout cas, quand on va le voir en meeting, clairement, aujourd'hui, il fait attention de ne pas prendre notamment ses supportrices dans les bras. Il est très vigilant là-dessus. Apparemment, il a compris la leçon.
Washington, D.C., sixième épisode, on s'est installé dans une distillerie de la ville. Donc derrière nous, il y a quelqu'un qui est en train d'arroser des barriques dans lesquelles, je pense, on va mettre tout bientôt du whisky. Les amis, je vous ai apporté une bouteille qui est produite ici. Attendez voir, je la sors juste. Voilà. Vous avez Rodam. Vu l'étiquette?
Rodam Rye. Ah oh bah Rodam, ça me rappelle.
Ça vous dit quelque chose, Rodam?
Clinton.
Quoi?
Clinton, non?
Exactement, c'est une bouteille en hommage à Hillary Clinton. C'est une série spéciale qui avait été en fait qui est sortie lorsque Clinton était en course pour la présidence. Et donc l'une des patronnes pensait que Hillary Clinton allait devenir la première femme présidente des États-Unis. ça n'a pas été le cas. La bouteille existe toujours et Hillary en a reçu un exemplaire en l'occurrence. Je vous propose qu'on on goûte ça tout à l'heure. Mais voilà pour la petite histoire. Et parmi les tonneaux qui sont juste derrière toi, Anne, il y a des tonneaux avec du Rodham Rye, donc du whisky à l'intérieur. On a beaucoup parlé des effets, de l'impact de MeToo, de cette montée des femmes en politique aux États-Unis, mais il y a aussi des échecs. Alors bon, il y a Hillary Clinton dont on vient de parler, qui est un échec flagrant, mais la vague MeToo, elle a tendance aussi parfois à se fracasser quand il y a de gros enjeux politiques.
Oui, par exemple la nomination du juge conservateur Brett Kavanaugh. Vous vous souvenez les manifestations à Washington pour dénoncer la nomination de ce juge qui était quand même accusé par une femme d'agression sexuelle quand ils étaient, je crois, au lycée tous les deux, donc ça remonte à quelques années.
Ouais, enfin, il y en a eu aussi à Harvard un peu plus tard.
Hein. Un peu plus tard. Et il y a eu effectivement ces auditions extrêmement spectaculaires où le juge a été passé sur le grill, notamment par les démocrates. Des manifestations dehors devant la Cour suprême pour dénoncer le fait que Kavanaugh allait peut-être intégrer cette Cour.
Oui, enfin, faut dire que l'élection d'un juge à la Cour suprême, hein, c'est un processus politique, pas électoral. Donc, les républicains avaient la majorité. Il y avait aucun doute sur l'issue du processus. Mais n'empêche, le témoignage de Christine Blasey Ford a marqué les esprits et elle a été jugée à tel point dérangeante qu'elle a suscité une vraie campagne de haine au sein du camp trumpiste. Et elle a reçu des menaces de mort, etc. Et un an plus tard, elle vit toujours cachée et elle a dû embaucher des garde de sécurité pour protéger sa famille.
Et dans le sillage de l'affaire Kavanaugh, vous vous souvenez peut-être de cette scène culte de la politique américaine.
What you are doing is allowing someone who actually violated a woman to sit in the Supreme Court. This is not tolerable.
Oui, alors là, on entend l'activiste Anna Maria Archila qui, en fait, a bloqué dans un ascenseur le sénateur à l'époque républicain Jeff Flake pour lui raconter sa propre histoire d'agression sexuelle en espérant qu'il ne vote pas pour la nomination de Kavanaugh.
Ouais, c'est une scène vraiment impressionnante. Elle coince littéralement un sénateur américain dans l'ascenseur. Anna Maria, d'ailleurs, que tu as rencontré, hein, Sonia.
Oui, je l'avais rencontrée à l'époque et je l'ai revue il y a quelques semaines. Elle était très émue. Finalement, cette scène avait marqué l'esprit des Américains. Mais finalement, depuis, le juge Kavanaugh a été nommé à la Cour suprême.
I really worry that, like, my daughter will grow up and not have the safety of knowing that she controls her body.
Oui, on la sent très émue. En fait, elle s'inquiète pour l'avenir de sa fille avec une Cour suprême qui est maintenant dominée par les juges conservateurs. Et évidemment, ça pourra avoir de l'impact, par exemple, sur le droit à l'avortement.
Kind of the danger of having a Supreme Court that is so tilted against freedom.
L'activisme féministe qui est bien vivant aux États-Unis, mais qui a aussi ses limites, hein, ses échecs. Pour conclure ce podcast, je voulais faire un rapide tour de table avec vous avec cette question finalement assez simple. Est-ce que les États-Unis sont prêts un jour à avoir une présidente à la Maison-Blanche?
En tout cas, quand j'ai suivi Pete Buttigieg en campagne dans le New Hampshire, j'ai posé la question de son homosexualité à ses admirateurs, aux gens qui étaient là, et il y en a plusieurs qui m'ont dit « ce sera plus facile d'élire un homosexuel qu'une femme ».
Oui, moi, lors de la dernière élection présidentielle, je me rappelle qu'en 2016, j'avais été dans le Missouri, à Ferguson, et j'avais comme ça parlé à des jeunes qui étaient dans une voiture, des jeunes afro-américains. Alors déjà, j'avais été étonnée parce qu'ils m'avaient dit tout de suite « nous, on votera pour Donald Trump », ils admiraient son côté businessman, et puis ils m'avaient dit « ah non, surtout pas Hillary Clinton, c'est une femme ». Donc voilà, c'était clair.
Bon, moi j'y crois parce que j'aime bien la série VIP, vous savez, vice-présidente, c'était dans les années 2012-2013, je crois, avec Julia Louis-Dreyfus, qui est vice-présidente, et à la fin de cette série de, je crois, 8 ou 9 saisons, elle devient présidente, elle s'installe dans le bureau ovale à la Maison-Blanche. Donc une femme là-bas, dans le bureau ovale, c'est possible, en tout cas dans les séries.
Voilà, et pour l'instant, les présidentes aux États-Unis, ça n'existe que dans les séries et les films à Hollywood. Hollywood, Weinstein, on y revient. Nous y étions au milieu des effluves de whisky dans la première distillerie 100% féminine de Washington. Ça s'appelle République Restaurative, c'est très joli. On m'a même dit tout à l'heure que le couple Obama y passait parfois. Peut-être même qu'Hillary Clinton, de temps en temps, vient déguster le whisky à son nom. Washington, D.C., on se retrouve dans 15 jours, dans un autre lieu de cette capitale américaine. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast, de ce balado sur les plateformes de vos radios, également sur Apple Podcast. On vous souhaite un bon début d'année 2020 avec beaucoup d'actualités. Le caucus de l'Iowa, l'Iran, la procédure de destitution. Il y a, il y a du travail.
Ça, on s'ennuie pas.
Hein. Et d'ailleurs, normalement, on devrait à peu près tous se retrouver dans l'Iowa pour ce caucus 3 février.
Exactement. Au revoir.
Au revoir.
À bientôt.
Au revoir, bonne année.
Au revoir.
Washington DC avec
Sonia Dridi, RTBF,
Grégory Phillips, France Info,
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada,
Anne Corpet, RFI,
Raphaël Grand, Radio-Télévision Suisse.
Réalisé par
Sandro Lichy.